Merci à tous d'être aussi nombreux. Et bien entendu, effectivement, donc l'Iran, à la fois son histoire et son actualité, il est normal que tout cela nous passionne. Je remercie aussi, donc, et je salue la présence de l'ambassadeur François Nicolau, qui viendra nous faire la dernière conférence, mais qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être là aujourd'hui. Merci, monsieur l'ambassadeur. Donc, nous continuons aujourd'hui avec Gabriel Martinez-Gros d'interroger justement les continuités et les fractures de cet Orient qui ne doit pas se lire uniquement donc au rythme des événements actuels. 5 000 ans d'histoire s'inscrivent dans la mémoire collective de ce peuple iranien, fier, noble et fier, et après la période des grands empires de l'Antiquité, dont Pierre Briand nous a parlé lors des deux... Donc après la période de ces grands empires de l'Antiquité, Achéménide et Sassanide, cet empire sassanide qui fut sans doute celui qui influença le plus largement la culture occidentale et entre autres la culture méditerranéenne, donc arrive la conquête arabe et l'adoption de l'islam. C'est de cette période, donc à partir bien entendu du 7e siècle, que va nous parler Gabriel Martinez-Gros. Gabriel Martinez-Gros est historien, spécialiste de l'histoire politique et culturelle d'Al-Andalus, professeur d'histoire médiévale du monde musulman à l'université Paris-Ouest, Paris 10 Nanterre. Il a dirigé avec Lucette Valency, que d'ailleurs nous accueillerons au premier trimestre 2017, donc dans un cycle sur les grandes batailles qui ont marqué un tournant dans l'histoire du monde. Donc il a dirigé avec Lucette Valency l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman, l'ISM, avec lequel il y a quelques années nous avions signé un partenariat. L'ISM qui est donc rattaché, comme vous le savez, à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Gabriel Martinez-Gros enseigne actuellement à l'École du Louvre dans le cadre du cours sur les dynasties berbères et le Maroc impérial. Il est également l'auteur de très nombreux ouvrages sur la période médiévale de l'islam, mais également il est l'auteur d'une brève histoire des empires, dont il est venu d'ailleurs nous parler l'année dernière, en clôture d'un cycle que nous avions sur la Russie de Poutine. Il était également aussi venu auparavant, un ou deux ans auparavant, nous parler de la Syrie des croisades et l'arrivée des Ottomans. Et il a participé largement à un hors-série qui vient de paraître, donc un hors-série du journal Le Monde, sur justement la fin des empires. Et bien entendu, vous avez dirigé, monsieur Gabriel Gros, vous avez dirigé, bien entendu, toute la partie qui, justement, s'occupe de l'empire musulman, justement, à la période médiévale. Un très grand merci à vous d'être venu une fois encore, et donc je vous laisse la parole. Merci à tous.
Je vous remercie d'abord de m'avoir de nouveau invité. Vous n'êtes pas encore là. J'espère que je ne vous laisserai pas encore cette fois-ci. Et donc, la caractéristique principale de mon intervention, c'est que je ne suis pas du tout spécialiste de l'Iran. Et donc,
Ça commence bien.
Ça vous aidera peut-être à vous lasser, finalement. Puisque, comme l'a dit Sylvie Pétain, je suis au départ spécialiste d'Al-Andalus, donc d'un monde très très éloigné, et ce que je peux faire de mieux pour ce qui concerne ce pays très très étrange et assez fascinant pour moi aussi qu'est l'Iran, c'est de le voir de l'extérieur et de situer l'Iran, en tout cas dans les premiers siècles de l'islam que je connais un peu mieux, à l'intérieur de ce monde islamique tel qu'il se constitue et où l'Iran joue un rôle tout à fait décisif. C'est ce dont nous allons parler. L'Iran, comme vous le savez, a avec l'islam, comme vous le savez sans doute déjà, parce que je pense que Pierre Briand vous en a parlé, M. Nicolau vous en parlera très certainement, a avec l'islam une relation très problématique. Mais l'un de ses problèmes, c'est qu'il est l'un des créateurs de l'islam. C'est-à-dire que s'en débarrasser est tentant, mais se débarrasser de ce qui a tenu un tel rôle dans un processus historique qu'on a soi-même constitué est difficile, hein, bien sûr. Et c'est un peu ce que nous allons voir ensemble. Pour première carte, je vous ai apporté quelques cartes qui sont de l'atelier qui ont été exécutées par l'atelier de Sciences Po, qui sont tout à fait remarquables, je trouve, et qui ont servi, que vous allez pouvoir retrouver au département des arts de l'islam du Louvre, puisque c'est pour le catalogue de l'histoire de l'islam du Louvre que ces cartes ont été réalisées. À la fois pour les cartes mobiles et pour le catalogue, le livre, le grand livre, comme on disait alors dans le département des arts de l'islam du Louvre. Et donc, ce qui est amusant dans cette carte, c'est la continuité relative dans le monde iranien. Vous voyez, par exemple, à proximité immédiate de la mer d'Aral. Je vais essayer. Ah oui, non, elle est trop... Eh oui. Oui, non. Là, que faire ? Que faire ? Je ne sais pas. On peut... Non. Il n'y a pas moyen de grossir un peu la carte ? Non ? Non ? Bon. Eh bien, on va se... Il y a de grandes tâches. C'est pas la carte la plus importante. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Vous voyez, par exemple, ici, alors, comment faire ? C'est plutôt ici, voilà. Ce nom que vous ne lisez pas, mais vous pouvez me croire sur parole, le nom de Khwarezm, qui désigne l'extrémité à proximité de la mer d'Aral de l'Ouzbékistan d'aujourd'hui, l'extrémité septentrionale de l'Ouzbékistan d'aujourd'hui. Ce nom n'a pratiquement pas... D'accord. D'accord. N'a pratiquement pas changé depuis l'Antiquité. Et ce qui, évidemment, frappe dans l'histoire de l'Iran, l'évidence dans l'existence de l'Iran, c'est précisément que l'Iran donne une impression d'évidence. Le pays a toujours été là, et même si on évite, pour ne pas soulever l'ironie des auditeurs que je sens déjà poindre, même si on évite l'expression d'Iran éternel, comme l'a dit Sylvie Pétain d'ailleurs dans son introduction, la permanence de l'Iran tout au long, au moins des trois derniers millénaires de l'histoire, implique une espèce de pérennité iranienne dont il existe finalement assez peu d'autres exemples. Bien sûr, la Grèce, bien sûr, la Chine, bien sûr, l'Inde peuvent revendiquer une épaisseur d'histoire à peu près comparable, mais la Chine, l'Inde sont des empires, c'est-à-dire des entités politiques, ou d'ailleurs plutôt des entités culturelles dans le cas de l'Inde, qui nous semblent, à nous en tout cas, recouvrir des peuples différents, une grande diversité de peuples. Comme la Grèce, en revanche, l'Iran serait une nation. Hein. C'est ce que nous voyons quand nous voyons l'Iran, c'est ce que nous entendons quand nous entendons l'Iran, le mot Iran, nous entendons une nation, et même une nation indomptable, quelque chose d'assez rare, parce que le pays est supposé avoir sauvegardé ses caractères essentiels, en particulier sa langue, bien sûr, hein, tout au long de son histoire, c'est-à-dire, en tout cas, tout au long des 3000 ans. Hein, au-delà de 3000 ans, le persan, qui est une langue indo-européenne, n'est pas présente sur le plateau iranien. Et donc, l'Iran aurait manifesté cet esprit national mieux encore que la Grèce par sa résistance aux empires, qu'il a vaincu à deux ou trois reprises, ou plus exactement, dont il est sorti victorieux de l'occupation que ces empires lui avaient fait subir à deux ou trois reprises. La première reprise, Vous la connaissez déjà, c'est que l'Iran a été conquis par Alexandre le Grand. Pierre Briand vous en a sans doute parlé, en 330 avant notre ère. Oui, je crois que c'était la dernière conférence, c'était le thème de la dernière conférence. Hein, en 330 avant notre ère, et l'Iran se, entre guillemets, libère de, entre guillemets, l'occupation gréco-macédonienne à peu près au milieu du deuxième siècle de notre ère, environ 150 ans plus tard, sous l'impulsion des Parthes. Non, je vous ai fait un petit lexique, mais sans doute la plupart d'entre vous n'en ont pas besoin. Parthes est sur la colonne de gauche. Hein. Sous l'impulsion des Parthes, qui rassemblent le territoire de l'Iran actuel, à peu près, hein, entre la Turkménie et l'Irak. Tenez, c'est à peu près le territoire de l'Empire séfévide que vous voyez ici en vert au milieu. Hein. C'est à peu près déjà le territoire de l'Empire Parthe dans l'Antiquité. Et cette espèce de continuité géographique est tout de même assez, assez remarquable. Et ce territoire entre ce que j'appelle la Turkménie... attendez, ici... Non, il faut se retourner. La Turkménie, c'est ça, hein, à peu près, ce que dans l'Antiquité on appelait la Bactriane, immédiatement au sud de la Moudaria, hein, au sud du premier des deux grands fleuves qui marquent l'Ouzbékistan, enfin le territoire de l'Ouzbékistan, qui définit le territoire de l'Ouzbékistan. Donc au premier siècle avant notre ère, l'Iran, et c'est la deuxième défaite infligée à un empire, met en échec les armées romaines, à l'apogée de Rome, en infligeant un désastre décisif à Crassus, vous savez, un des trois triumvirs, pour ceux qui ont encore des souvenirs de l'histoire romaine, avec Pompée et César. Crassus était le plus riche, peut-être le plus ambitieux, mais le moins habile de ces trois triumvirs, et donc il est tué à la bataille de Kars, c'est-à-dire de Harran, dans le nord de la Syrie, à la frontière de la Syrie et de l'Irak d'aujourd'hui, par les Parthes en 53 avant Jésus-Christ. Certes, un siècle et demi après, environ, Trajan prend sa revanche en conquérant la Mésopotamie, c'est-à-dire en conquérant l'Irak, dont je vous fais remarquer au passage qu'il est déjà... on en reparlera probablement, vous aurez l'occasion d'en reparler avec d'autres conférenciers plus tard, hein. L'Irak est déjà, hein, dans la mouvance de ce que nous appelons l'Iran, hein. Il est inséparable de la mouvance iranienne. La Mésopotamie a fait partie de l'Empire achéménide et elle fait partie de l'Empire parthe, qui reconquiert l'intégrité de l'Iran au détriment des gréco-macédoniens et qui la défend contre l'Empire romain. Encore un peu plus de 150 ans, et vous l'avez vu, je pense, c'est l'Iran qui prend l'initiative, qui défait Rome, qui capture un empereur romain sur un champ de bataille, l'empereur Valérien en l'occurrence, qui n'y survivra pas d'ailleurs. C'est le triomphe de Shapur, celui qui est gravé sur la falaise de Naxerostam dans le nord-ouest de l'Iran. Après ces triomphes, le troisième grand exploit, et le plus important pour nous ici, celui qui nous importe ici particulièrement, c'est la résurrection, bien sûr, de l'Iran après la conquête arabe, au détriment de l'empire arabe, empire islamique si vous voulez, mais qui au départ est un empire arabe. L'Iran, il faut le dire, est totalement submergé, on va en revenir au début, hein. L'Iran est totalement submergé, comme vous voyez, par la vague verte, hein, que vous avez sur cette carte, même de loin, même si vous ne lisez pas les noms, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous voyez que la conquête arabe en 700... Là, c'est l'Empire tel qu'il est en 750 à peu près. Hein. La conquête arabe a submergé la totalité du monde iranien et de l'Empire sassanide. Et l'Iran, totalement submergé, semble disparaître, c'est-à-dire que le peuple, la langue, semble disparaître au profit de l'arabe pendant au moins trois siècles. On n'a pas de documents à proprement parler en persan, hein, c'est d'ailleurs une langue un peu nouvelle, hein, le persan, qui va émerger à partir du Xe siècle ou de l'an 1000, hein, une langue qui est déjà très profondément pénétrée par l'arabe. Donc, qu'on parle encore des langues persanes ou des dialectes iraniens, c'est très très probable, mais il n'en est pas d'attestation écrite, c'est-à-dire que tout ce qui s'écrit, et Dieu sait qu'il s'écrit beaucoup de choses dans ces trois premiers siècles du monde islamique, tout ce qui s'écrit en Iran s'écrit en arabe. Et donc tout se passe comme si l'Iran, un peu comme la Gaule, était conquise non seulement par les armes, mais par la culture de son vainqueur arabe, mais il n'en est rien. Il n'en est rien, c'est-à-dire, et c'est le plus étonnant, à partir du milieu du Xe siècle, sous l'impulsion, il est vrai, de pouvoirs persans d'abord, puis turcs, nous le verrons, la langue et la littérature persane naissent ou renaissent, c'est difficile à dire, c'est bien une langue iranienne, évidemment, qui s'affirme, une langue tout de même pénétré de nombreux mots arabes, comme l'est le persan aujourd'hui, et cette langue s'affirme d'emblée comme une très grande langue de culture, puisque dès l'an 1000, s'élabore et se publie le premier grand chef-d'œuvre de la littérature persane, un peu la chanson de Roland de l'Iran, le Shahnameh de Ferdowsi, qui est d'un siècle environ antérieur, puisqu'il est des alentours de l'an 1000-1010 à peu près, donc d'un siècle à peu près antérieur à notre propre chanson de Roland, qui est de l'ordre, qui est d'environ 1100. Hein. Et cette quasi-simultanéité, à un siècle près, hein, des œuvres fondatrices de la France et de l'Iran, renforce l'idée d'une construction nationale. L'Iran a l'âge, cette fois-ci, un millier d'années, hein, d'une construction nationale, comme les grandes nations européennes, simplement un peu plus précoce et plus vivace encore que tout autre. Et c'est assez curieux, c'est cette résilience aux empires qu'on ne trouve aussi pleinement ni dans l'histoire de la Grèce, ni même dans celle d'Israël, qui est reconstituée. Hein. C'est cette étrange particularité de la nation iranienne, telle que l'historiographie moderne des 19e et 20e siècles l'a racontée, qui nous interroge. Hein. Parce que ça nous en dit beaucoup sur ce qu'est pour cette historiographie, la nôtre, hein, celle des 19e et 20e siècles, sur ce qu'est un peuple. Sur le fait que les peuples, d'abord, sont les moteurs essentiels de l'histoire, et sur ce qu'est une nation, en fait, pour nous, très spontanément, hein, une nation n'est pleinement identifiée que quand elle a démontré sa résistance à des empires. Hein, la grande majorité des nations, des grandes nations que nous identifions, et en particulier des nations européennes ou américaines, hein, songez aux Gaulois, aux Ibères, aux Suisses de Guillaume Tell, aux Américains du Boston Tea Party, de la Déclaration d'indépendance et à mille autres exemples, une nation dans notre conception moderne a pour acte fondateur une libération, tout simplement, hein, ou une guerre de libération la plupart du temps. Hein. Et c'est pourquoi l'Allemagne moderne, par exemple, se donnera pour origine la guerre de libération contre Napoléon de 1813-1814, beaucoup plus que la guerre victorieuse de 1870-1871, qui a pourtant, en réalité, bien sûr, constitué l'Allemagne telle qu'elle a survécu jusqu'en 1945. Mais c'est tout aussi vrai de la France révolutionnaire. Hein. La Révolution française fait figure dans notre geste national de guerre de libération, en fait, nationale, et en même temps, puisque c'est le même acte d'enracinement de la nation. La levée en masse de l'an 2, c'est notre enracinement, c'est notre guerre de libération. C'est le cas de l'Espagne et de la guerre d'indépendance qu'elle a menée contre, c'est ainsi qu'on l'appelle en Espagne, hein, qu'elle a menée contre Napoléon entre 1808 et 1813, et on pourrait multiplier les exemples. Eh bien, l'exemple même de ces guerres de libération, c'est l'Iran, évidemment, hein, puisque l'Iran s'est libéré de plusieurs empires. Hein. En fait, disons-le, franchement, ce récit libérateur, ces résurrections miraculeuses de l'Iran indestructible méritent d'être interrogées, disons nuancées, même si on ne remet pas en cause totalement ce schéma qui a sa vérité. On peut soumettre à l'examen critique les caractères fondateurs de l'Iran sans nier ce que cette construction historique qu'est l'Iran garde d'exceptionnel. Tout à fait exceptionnel, parce que c'est vrai qu'une fois soumise par un empire, des milliers d'ethnies, de tribus ont disparu à jamais de l'histoire, et pour la plupart si complètement que nous en ignorerons toujours jusqu'au nom de ces tribus et de ces ethnies. Et même quand nous connaissons les noms de ces peuples ou de ces ethnies disparues, c'est le cas d'une infime minorité de ces peuples et de ces ethnies, comme c'est par exemple le cas des Gaulois. Il ne nous reste, et pourtant les Gaulois c'était plusieurs millions d'individus, c'était un véritable peuple hein, lorsque César l'a conquis, leurs langues ont été oubliées et il ne nous reste plus grand chose, hein. Il faut bien l'avouer, nous sommes les descendants linguistiques des Romains et la langue que je suis en train de vous parler est un latin à peine modifié hein, par les gosiers gaulois, il est vrai, hein, mais à peine modifié au total, c'est un latin. Fondamentalement, c'est un dialecte de latin. Donc très peu nombreux sont les peuples qui ont survécu à la conquête, puis qui ont recouvré le pouvoir et une pleine identité historique, sans doute les Grecs, les Juifs et quelques autres, mais les Iraniens n'en restent pas moins un exemple tout à fait spectaculaire. Alors il faut revenir à la situation qui prévaut au moment de la conquête arabe. En fait, l'islam a conquis deux empires pour l'essentiel, et non pas une nation perse et un fragment d'empire romain. Ce sont deux empires. L'empire romain, une part importante de l'empire romain, l'empire oriental, la Méditerranée orientale romaine, la Syrie et l'Égypte en particulier, mais aussi la Tunisie actuelle et l'Espagne, et l'empire perse, c'est-à-dire l'Irak, l'Iran. Et vous le voyez, l'essentiel de l'Asie centrale, vous voyez sur cette carte, l'essentiel de l'Asie centrale. Cet espace, il faut le dire, à la fois celui qui était occupé par l'Empire romain, enfin celui qui constituait l'Orient romain et celui qui constituait l'Empire perse des Sassanides, cet espace est encore au 7e siècle un des plus riches du monde, en particulier de cette richesse essentielle dans les civilisations agraires que sont les hommes. Les êtres humains, les masses humaines. Le Moyen-Orient a été, dans les millénaires précédents, il faut toujours le rappeler parce que on l'oublie trop souvent, le berceau de ce qu'on appelle la révolution néolithique, c'est-à-dire tout simplement l'acquisition de l'agriculture, de l'élevage, du tissage, de la céramique. C'est là que tout cela est né. De la métallurgie, un peu plus au nord, plutôt dans les terres de l'Anatolie et de l'Asie centrale, du Caucase. Et puis, finalement, de l'écriture et de l'émergence de la cité et de l'histoire. C'est là que tout s'est passé dans un quadrilatère compris en gros entre la Grèce, l'Égypte à l'ouest et la vallée de l'Indus, vous voyez, et l'Asie centrale à l'est. L'Empire perse achéménide a sans doute été le premier empire de l'histoire, avant la Chine, avant Rome. Il a peut-être compté à ce moment-là, puisqu'il a recouvert, vous en souvenez, dans la quasi-totalité du Moyen-Orient, un quart de la population mondiale, 35 millions de sujets sur les 140 millions d'âmes qu'on évalue pour la population mondiale de 500 avant Jésus-Christ, à peu près. Et donc, le Moyen-Orient reste, malgré les malheurs qu'il a subis à la fin de l'Antiquité, en particulier les grandes pandémies, qui sont la rançon, il faut le dire, de son succès. C'est-à-dire que la densité même de la population permet, et la continuité de la population permet le passage des grandes contagions, transforme les épidémies ponctuelles en pandémies, en épidémies généralisées qui affectent durement la population du Proche-Orient à partir du deuxième siècle de notre ère. D'abord la variole, semble-t-il, et puis la peste, surtout, à partir du VIe siècle, la peste qui affecte le Moyen-Orient entre le VIe et le VIIIe siècle. Donc, l'islam attaque des empires riches, encore bien sûr, malades aussi, malades parce que leurs ressources humaines et donc fiscales stagnent ou diminuent, mais aussi parce que ce sont des empires, là je renvoie à notre précédente conférence, ce sont des empires parce que, comme l'explique la théorie du grand historien arabe du XIVe siècle, Ibn Khaldoun, ils ont des armées, c'est le propre des empires, l'essentiel de leur population, parce qu'ils ont assigné l'essentiel de ces populations à la production et au paiement de l'impôt, et ils ont confié leur défense à des ethnies périphériques, mercenaires, peu nombreuses, mais actives et vigoureuses, évidemment. Donc, par exemple, dans le cas de l'Empire, perse, de l'Empire sassanide, non, ce n'est pas la meilleure carte, j'ai essayé de... Non, non, je vais revenir à cette carte-là. Dans le cas de l'Empire sassanide, le cœur productif de l'État, là où se lève l'essentiel de l'impôt, et là où se trouve la capitale, ça n'est pas l'Iran, c'est l'Irak. C'est l'Irak parce que l'Irak, c'est l'ancienne Mésopotamie. Enfin, on l'appellera l'Irak, les Arabes l'appelleront l'Irak. Mais c'est la Mésopotamie, hein, tout simplement. La capitale de l'Empire sassanide, comme d'ailleurs la capitale d'été déjà, d'hiver, de l'Empire achéménide, c'est l'Irak. Babylone était la capitale d'hiver de l'Empire achéménide et la capitale de l'Empire sassanide, c'est Ctesiphon, sur le Tigre, à 25 km aujourd'hui de Bagdad. Vous voyez que les lieux ont remarquablement peu changé. Et pourquoi la capitale se trouve-t-elle là? Bien, tout simplement, alors que le pouvoir est iranien, hein, et que la population de l'Irak ne l'est pas, c'est déjà une population sémitique, même si elle n'est pas encore arabe. Cette population, pourquoi la capitale est-elle là? Tout simplement parce que c'est là que se trouvent les ressources fiscales, essentiellement. Hein. C'est là que se trouvent les densités les plus fortes de la population et les productions les plus élaborées. C'est là que l'urbanisation, en particulier, est la plus développée dans l'Empire. Et donc, c'est le premier... Le cœur de l'Empire, certainement, le cœur productif de l'Empire. L'autre région la plus productive, hein, probablement, c'est celle-ci. C'est cette grande région qu'on appelle, décidément, puisqu'on ne lit pas grand-chose sur les cartes, je pense que je voulais indiquer, c'est le Khorasan. C'est cette région qu'on appelle le Khorasan. Donc vous l'avez à la quatrième, cinquième ligne de la colonne de gauche, le Khorasan. C'est un nom qui désigne encore aujourd'hui une province de l'Iran, du nord-est de l'Iran. Et c'est le nom qu'a choisi Daesh pour désigner... ces rejets et ces rejetons d'Afghanistan et du nord-ouest du Pakistan, parce que le nom de Khorasan résonne dans l'histoire islamique d'une tonalité que les gens de l'État islamique jugent positive, hein, c'est-à-dire d'une tonalité de conquête. Mahmoud de Ghazna, dont on reparlera très rapidement, je pense, à l'occasion, Mahmoud de Ghazna était le grand conquérant musulman de l'Inde, était reçu comme un Khorasanien de son temps, parce qu'il était effectivement émir du Khorasan. Donc voilà, c'est le Khorasan est probablement avec l'Irak la région la plus productive l'Iran sassanide, pour autant que nous puissions le savoir, parce que nous savons peu de choses au total, je crois, hein, je ne suis pas là encore spécialiste, de cet Iran sassanide. Donc voilà, en revanche, les périphéries en charge de la violence auxquelles l'Empire... Sassanide a confié l'essentiel de sa défense, se trouve aux périphéries de cet empire, sans doute en Asie centrale. Les Sogdiens, c'est un peuple du nord, des confins du Moyen-Orient et de la Chine, hein, les Sogdiens, et au sud-ouest, les Arabes, déjà. Hein, c'est-à-dire que la Mésopotamie iranienne, cœur de l'Empire, est flanquée à l'ouest d'un royaume arabe, entendez arabe au sens strict du terme, c'est-à-dire d'un royaume bédouin, hein, si vous voulez, qu'on nomme, d'après la tribu qui en constitue l'assise principale, à partir du IVe siècle de notre ère, le royaume Lahmide, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce petit royaume protège les territoires productifs de l'Empire, c'est-à-dire la Mésopotamie, les contribuables, hein, grâce auxquels l'Empire existe, parce que sans contribuables, il n'y a pas d'Empire, contre ses cousins arabes d'abord. Hein, c'est-à-dire contre les bédouins des déserts orientaux de l'Arabie, qui sont à proximité immédiate, hein, ceux qui vont bientôt se rallier à l'islam et entreprendre, au nom de l'islam, la conquête de l'Iran, justement. Mais il protège aussi l'Empire perse contre ces autres Arabes qui remplissent le même rôle du côté byzantin, puisqu'il y a d'autres Arabes qui remplissent absolument exactement le même rôle dans l'actuelle Jordanie, si vous voulez, à la frontière de la Syrie romaine et byzantine, ou à la frontière de l'Égypte romaine puis byzantine. Donc, en somme, les Arabes sont déjà là. Ils sont déjà là aux marges, mais dans le jeu. Dans le jeu impérial, que ce jeu impérial soit perse ou qu'il soit romain, les Arabes sont les marges guerrières, déjà. Alors ces Arabes ont été convertis au christianisme, en particulier pour ceux de Jordanie, de l'actuelle Jordanie à la frontière de l'Empire byzantin. Mais on peut avancer que pour les conquérants islamiques, le plus dur sera fait dès qu'ils l'auront emporté sur ces défenses extérieures de l'Empire, c'est-à-dire sur leurs cousins arabes, ou dès lors qu'ils auront convaincu ses cousins arabes qu'il y a plus d'intérêt à soumettre le maître qu'à continuer à lui obéir, si vous voulez, qu'il y a plus d'intérêt à s'emparer de la totalité de la caisse du patron que d'en recevoir un salaire. Parce que c'est ça, finalement, la conquête arabe. C'est que vous raflez la totalité de la caisse. De ceux qui étaient jusque-là vos maîtres et vos patrons. Et donc, pour du moins ces Arabes soumis, mais ils cessent de l'être soumis et ils changent d'attitude parce que d'autres, qui ne l'ont jamais été soumis, ceux de l'Arabie, leur indiquent clairement qu'ils ont désormais les moyens, avec l'aide des traditionnels gardiens des frontières, qu'ils ont désormais les moyens de venir à bout des empires. Parce que ce qui faisait que ces Arabes gardiens des frontières des empires restaient fidèles aux empires, c'était leur conviction de la force et de la pérennité de ces empires. Dès lors que les premières conquêtes arabes leur démontrent que les empires sont fragiles, et que peut-être leur heure est venue, ils se rallieront d'enthousiasme aux conquêtes arabes, même si on ne leur rend pas le premier rang, parce que bien sûr, le premier rang revient à ceux qui ont été les premiers musulmans, et ce n'est pas le cas de ces hommes des confins des vieux empires, mais ils vont se rallier en effet à la conquête arabe, et priver donc les empires très très brutalement de la totalité de leur défense, pratiquement. Et donc, la bataille décisive pour l'Iran se livre en Irak. Et vous voyez, ça met en doute l'idée d'une nation iranienne, parce que c'est en Irak, c'est-à-dire dans un territoire qui n'est pas iranien, que se livre la bataille décisive qui marquera le destin funeste de l'Empire iranien, la réussite de la conquête arabe. C'est la fameuse bataille de Qadisiyah, c'était la bataille préférée du regretté Saddam Hussein, puisque c'est une victoire par laquelle les Arabes l'avaient non seulement emporté sur les Persans, mais imposé pendant 3 siècles leur loi aux Persans. Malgré, donc c'est une victoire pour les Arabes, 636, la bataille donc de Qadisiyah, j'ai dû vous l'écrire quelque part, Qadisiyah, Ctesiphon, la capitale de l'Irak est au 4e, oui, Qadisiyah, c'est à la ligne suivante, 636, et 6 ans plus tard, cette victoire de Qadisiyah, sur le plateau iranien cette fois, est renouvelée par la victoire arabe de Nihavand, aujourd'hui, dans l'Iran d'aujourd'hui, en revanche. Voilà. Donc, malgré la victoire de Qadisiyah, malgré la qualité de l'armement des Perses, malgré la frayeur, nous disent les chroniques arabes, que leurs éléphants suscitaient chez les musulmans, et plus encore parmi les chameaux. Il semble que les chameaux n'aiment pas les éléphants. Voilà. On aura appris quelque chose. Donc, presque aussitôt, la Mésopotamie, donc Ctesiphon, la capitale de la Mésopotamie, tombe. La victoire de Nihavand ouvre aux Arabes donc le plateau iranien. Et en 652, avec la mort de son roi, l'Iran passe entièrement au pouvoir de ses vainqueurs. Ce qui est assez curieux, c'est que tout au long de la période islamique, l'Iran continuera d'utiliser, à côté du calendrier islamique, un calendrier propre qui part de la mort de ce roi. C'est assez étrange. Bon, mais il y a autre chose L'histoire pourrait s'arrêter là. En fait, elle est plus complexe. C'est que l'Iran n'est pas au cœur des fascinations des Arabes conquérants. Il faut bien le dire. Hein. Il faut se faire plaisir de temps en temps. C'est l'Occident qui est, l'Occident, l'Empire romain, si vous préférez, hein, qui est au cœur des convoitises arabes. Tout simplement parce que l'islam est né sur. Pardon. L'islam est né ici. Hein. Il est né sur la côte occidentale de l'Arabie, ce qu'on appelle le Hijaz. Hein, vous voyez Médine ici et la Mecque ici. Et donc, c'est ceci et ceci qui sont les correspondants naturels du Hijaz. C'est là, vers la Syrie et dans une moindre mesure vers l'Égypte, surtout vers la Syrie, que se dirigeait l'essentiel. Des caravanes qui faisaient la richesse, la prospérité de la Mecque. Et c'est en Syrie que Mohammed a eu ses premières inspirations religieuses. C'est en Syrie qu'il a connu le christianisme. C'est en Syrie qu'il a connu tout ce que le Coran charrie de l'histoire, des récits de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, d'ailleurs. Et donc, l'islam des origines, qu'il soit celui de Muhammad ou celui de ses adversaires omeyyades, c'est-à-dire la grande famille qui dominait la Mecque à l'époque du prophète et qui s'est opposée à lui, on va y revenir dans un instant, ce premier islam est bien plus fasciné par la Syrie et par l'Empire romain que par l'Irak et par l'Empire perse. C'est ce que démontre d'ailleurs la première guerre civile de l'islam, puisque c'est ce que je vous disais il y a un instant, la querelle s'envenime et éclate en une guerre généralisée parmi les conquérants arabes entre ceux qui ont suivi Mohammed depuis le premier instant et ceux qui se sont ralliés tardivement, même s'ils ont joué un rôle essentiel dans les conquêtes. Ceux qui se sont ralliés tardivement se sont en effet emparés du pouvoir. C'est la grande famille des Omeyyades dont vous avez entendu parler. Et tous ceux qui considèrent que les Omeyyades ont été ou sont indignes de la succession du prophète, sont indignes du califat, se soulèvent contre leur domination. En vain, les Omeyyades l'emportent et ce sont les premiers à sortir d'Arabie. Ils situent la première capitale de l'Empire islamique, dont ils poursuivent les conquêtes, à Damas, c'est-à-dire en Syrie. En Syrie, c'est-à-dire du côté romain des conquêtes, hein, car la Syrie, c'est Rome, hein, tandis que l'Irak, c'est la Perse. Au contraire, l'Irak, ou plus exactement les Arabes établis en Irak, qui étaient pour l'essentiel originaires de cette région, hein, c'est eux qui ont conquis l'Irak, les Arabes qui ont conquis l'Irak se sont situés du côté hostile aux Omeyyades, c'est-à-dire du côté du fameux gendre et cousin germain du prophète Ali, qui a été vaincu dans la guerre civile par les Omeyyades. Donc voilà, la victoire des Omeyyades, c'est celle de Rome, en somme. Hein. C'est celle de la fascination romaine, puisque les Omeyyades établissent le premier centre impérial de l'islam du côté de l'Empire romain, hein, du côté des terres conquises au détriment de l'Empire romain. Et la suite le confirme, c'est-à-dire que les premiers monuments de l'islam, qui sont construits au total assez tardivement, entre 691 et 715, c'est-à-dire déjà 60 ans après que l'islam ait commencé son expansion, sont construits. Il y en a trois, hein, il n'y en a que trois au total, hein, sont construits par décision des califes omeyyades, respectivement pour deux d'entre eux à Jérusalem et pour le troisième à Damas. Hein, c'est respectivement les deux édifices de ce qu'on appelle le Haram el-Sharif, le mont du Temple à Jérusalem, tout simplement, hein, là où s'élevait l'ancien temple d'Israël, et qui a été détruit par Titus en 70 de notre ère, lors de la grande guerre des Juifs. Et donc, sur cette esplanade, dont il ne reste que le mur de soutènement, vous savez, le mur des lamentations, sur cette esplanade, les Arabes ont édifié les deux premiers monuments de l'islam. C'est assez spectaculaire. Non pas que la Jérusalem à laquelle ils font référence soit une Jérusalem juive, hein, c'est une Jérusalem chrétienne, bien sûr. Hein, c'est contre le christianisme. C'est pour affirmer la victoire de l'islam sur le christianisme et l'Empire romain, qui est la grande fascination de ce premier islam, que l'islam édifie les premiers monuments de musulmans à Jérusalem, ce qu'on appelle la coupole du rocher, ce que vous avez sur tous les dépliants touristiques de Jérusalem avec sa coupole d'or, hein, et la fameuse mosquée Al-Aqsa, la mosquée ultime dont il est question d'une mosquée ultime, une masjid Al-Aqsa, dans le Coran. Mais rien ne dit que c'est celle-ci, hein, mais celle-ci a été baptisée du nom de la mosquée supposée ultime qu'on trouve dans le Coran. Donc voilà, et le troisième monument, c'est tout simplement la mosquée des Omeyyades de Damas, tous les trois monuments sont construits dans un style rigoureusement byzantin. C'est le grand historien de l'art islamique Oleg Grabar qui disait que si l'islam avait disparu en 750, on ne saurait pas par les traces qu'il a laissées dans l'art universel, en l'occurrence ces trois monuments, qu'il a existé. Parce que ces trois monuments sont strictement complètement romano-byzantin. Il n'y a rien de ce qu'on appellera encore l'art islamique dans ces monuments. Et donc cette fascination de Rome, ou de Byzance, comme vous voulez, c'est la même chose, cette fascination de Rome, il ne faut pas négliger de penser, cela dit, qu'elle est meurtrière, bien entendu. Hein. Vouloir hériter de l'Empire romain, c'est vouloir détruire l'Empire romain. Hein. Il faut l'avoir, et jusqu'au bout. Hein. Le but fondamental de ce que je n'ose pas appeler la politique extérieure, mais en tout cas des invasions que dirigent les Omeyyades dans toutes les directions, les califes Omeyyades dans toutes les directions du monde, le but fondamental, c'est Constantinople. C'est la conquête de Constantinople. Et cette conquête de Constantinople va échouer. Voilà, parce que Constantinople, c'est la capitale de l'Empire romain, hein, bien sûr, hein, depuis que Rome n'est plus dans Rome, enfin depuis que Constantin a déplacé la capitale de Rome à Constantinople au IVe siècle. Donc l'idée, la grande ambition, c'est la conquête de Constantinople. Cinq ou six assauts seront dirigés entre 675 et 720 contre Constantinople. Le plus violent, c'est le dernier, en 717-718, et tous échouent sur les murailles de Constantinople, sur la supériorité de la marine grecque, enfin romaine, si vous préférez, byzantine, et aussi pour le dernier, très curieusement, sur le fait qu'on a prévu trop grand. C'est-à-dire qu'on a envoyé une armée trop nombreuse qui meurt de faim, littéralement, devant les murailles de Constantinople. Et donc l'échec de 717-718 est décisif. Les Arabes ne reviendront plus à l'assaut de Constantinople pour des siècles et des siècles. Enfin, il faudra attendre les Turcs avant que l'islam ne s'empare de la ville. Mais il est décisif sous un autre aspect, étrangement, il est décisif pour l'Iran. Il est décisif pour l'Iran parce que décidément l'Empire romain va survivre, enfin l'Empire byzantin va survivre, et donc les élites byzantines ou grecques, de langue grecque, de Syrie et d'Égypte, se replient sur le territoire demeuré romain, demeuré byzantin, demeuré à l'Empire, et échappent à l'Empire islamique, qui peut au contraire compter sur les ressources intellectuelles et sur les qualités d'administrateur des hommes de l'autre empire, c'est-à-dire de l'empire perse. En fait, la place de l'Iran dans l'islam est inscrite dans la défaite de l'islam devant Constantinople en 717-718. C'est inévitable. À partir de là, le recours à l'autre empire, aux ressources de l'autre empire qui lui a été totalement conquis et dont les élites sont à la disposition des conquérants arabes, c'est-à-dire des élites persanes, ou irako-persanes, si vous préférez, le recours à ces élites-là est devenu inévitable. Est devenu inévitable parce qu'on n'aura pas les élites romaines. Parce que Constantinople restera une capitale rivale de celle des califats, parce que l'Empire romain va survivre, même très 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 amoindri, même minuscule. Hein, vous voyez ici le rapport, hein, il ne faut pas l'oublier, il ne faut jamais l'oublier, entre l'Empire byzantin, c'est ce qui est en jaune-orangé, hein, et l'Empire islamique. Vous voyez que c'est pas, l'Empire des deux, c'est évidemment pas l'Empire byzantin. Là, je suis désolé, après nous avoir fait plaisir, il faut nous enlever ce plaisir. L'Empire, c'est l'Empire islamique, évidemment. Hein. C'est énorme par rapport à l'Empire byzantin. C'est 5 ou 6, j'exagère, 3 ou 4 fois la population de l'Empire byzantin, probablement. C'est-à-dire 35 à 40 millions d'habitants entre l'Espagne et l'Asie centrale, 40 millions plutôt, contre à peine une dizaine de millions d'habitants pour l'Empire byzantin vers 800, hein, vers l'an 800. Voilà. Et donc, dès lors, l'Iran va jouer un rôle décisif dans la construction de l'Empire islamique, en fait. Hein. C'est tout simplement la sanction de cette place nouvelle de l'Iran sera la victoire de la dynastie dite des Abbassides. Vous avez ça à la dernière ligne de la colonne de gauche, hein. La victoire de la dynastie des Abbassides en 700... Alors, qu'est-ce que c'est que cette dynastie des Abbassides en deux mots? Ce sont les descendants d'un oncle du prophète, Al-Abbas, hein, peu importe. Mais c'est donc un mouvement qui insiste, comme en général le chiisme, sur la défense des droits de la famille du prophète. Au départ, les Abbassides sont des chiites. Hein, sont proches du chiisme puisque ils défendent, ils manifestent les mêmes valeurs, hein, que celles du chiisme en général, c'est-à-dire la défense des droits de la famille du prophète à exercer le califat, c'est-à-dire à exercer la succession politique du prophète. Mais ce qui est important, c'est que cette famille abbasside, la première sans doute, parmi toutes les branches du chiisme, va faire partir son mouvement précisément d'ici, du Khorasan. Hein. Le soulèvement victorieux de la dynastie abbasside part d'Iran, hein, et même d'Iran oriental, de l'extrême orient de l'Iran, du nord-est de l'Iran. Et cette victoire des Abbassides se manifeste presque aussitôt dans la nouvelle géographie de l'Empire que vous voyez ici, hein. En fait, peut-être faut-il y insister, nous n'avons pas été, puisque j'ai participé à l'élaboration de ces cartes assez brutaux dans le mélange des couleurs. En fait, l'Empire abbasside s'arrête ici, à la Tunisie, mais il va jusqu'à l'Asie centrale, bien entendu. Mais ce qui est caractéristique, c'est qu'il abandonne tout ça. Hein. Le Maghreb et l'Espagne ne feront jamais partie de l'Empire abbasside. Très délibérément, l'Empire abbasside abandonne la Méditerranée occidentale, au néant, en quelque sorte. Et la carte de l'Empire vers l'an 800 ressemble étrangement, avec la Tunisie en plus et avec la Turquie, l'Anatolie, l'Asie mineure en moins, ressemble extraordinairement à la carte de l'Empire achéménide, tout simplement. C'est un empire quasiment persan. Vous retrouvez quasiment la géographie de l'Empire achéménide dans la géographie abbasside. La dynastie abbasside, qui prend le pouvoir en 750, donc dans l'islam, est la descendante d'un empire persan ou d'un impérialisme persan, tandis que l'Empire omeyyade était le succédané, le successeur, se voulait le successeur de l'empire, d'un empire romain ou d'un empire byzantin. Voilà. Donc, d'ailleurs, les Omeyyades que je connais un peu mieux, réfugiés en Espagne, ils vont se réfugier en Espagne. Lorsque, au Xe siècle, ils revendiquent à nouveau le califat pour leur compte, sur le souvenir du califat de leurs ancêtres qui avaient régné à Damas, les Omeyyades réfugiés en Espagne ont pour argument un argument très simple, c'est-à-dire les Abbassides, qui sont d'authentiques Arabes, bien sûr, puisqu'ils sont des parents du prophète, les Abbassides se sont livrés, et ils ont livré l'islam aux Persans, tout simplement, c'est-à-dire à des musulmans, on ne peut plus douteux. Ces musulmans, on ne peut plus douteux que sont les Persans. Et donc, ils ont trahi, hein, tout simplement. Les Abbassides sont des traîtres à l'arabité et à l'islam. Bon, l'argument est polémique, hein, bien entendu. En fait, les rapports entre les califes abbassides, qui sont d'origine arabe, bien sûr, et l'Iran, qui les a soutenus et qui leur a offert le pouvoir et qui leur a donné la victoire, ces rapports sont en fait assez tendus. Ils sont tendus tout simplement parce que il y a entre le Khorasan, ici, qui est la base du régime, et la capitale, qui est Bagdad, ici, il y a 2000 kilomètres, tout simplement. C'est assez curieux. Les Abbassides, après avoir hésité, décident de fonder en effet leur capitale à Bagdad, en Irak. Alors, en Irak, me direz-vous, du côté perse, justement, de la grande division entre Empire romain et Empire perse. Hein. La capitale de l'islam a quitté Damas pour aller à Bagdad, ça n'est que quelques centaines de kilomètres. Vous me diriez, ce n'est rien. Mais si, on a passé l'Euphrate, et en passant l'Euphrate, on est passé d'un monde à l'autre, on est passé du monde romain au monde perse. Donc, c'est bien dans le monde perse que les Abbassides créent en 762 leur capitale, c'est-à-dire Bagdad, mais cette capitale n'en est pas moins très éloignée de la base militaire, en particulier de la dynastie, c'est-à-dire du Khorasan. Et donc le calife, parce qu'il est arabe, ne veut pas résider au Khorasan parce que la province est trop persane, elle est trop iranienne, et que il y a tout de même une certaine prévention à l'égard de ces vaincus qui ont pris si rapidement une revanche à l'égard de leurs vainqueurs arabes. Donc il ne veut pas résider au Khorasan, mais il ne veut pas non plus instituer au Khorasan un gouverneur qui détiendrait les clés de son armée, puisque l'essentiel des troupes qui soutiennent, qui sont les piliers de la dynastie, viennent du Khorasan. D'où une relation donc tendue entre les Abbassides et le Khorasan. C'est le caractère très spectaculaire de cette tension, c'est le fait que l'homme qui a dirigé le soulèvement abbasside et qui était un persan du nom d'Abu Muslim, Muslim désigne... Déjà, ça veut dire musulman, bien sûr, hein, mais ça désigne justement déjà un musulman de fraîche conversion. Hein, c'était probablement, on ne sait presque rien de lui, sinon qu'il n'était pas originaire du Khorasan, mais plutôt de la région d'Ispahan. Mais il est clair qu'il était de conversion à l'islam très très récente. Cet Iranien de conversion à l'islam très récente, qui a dirigé le grand soulèvement qui a permis aux Abbassides de l'emporter, et qui est le premier Iranien à jouer un rôle aussi important dans l'histoire de l'islam, hein, bien entendu, est exécuté par ceux qu'il a portés au pouvoir 5 ans après sa victoire. Hein, il est convoqué par le calife et il est mis à mort par le calife Abu Ja'far al-Mansur, qui lui doit son trône, hein, bien sûr. Ce sera une norme souvent observée dans l'histoire de l'islam, oui, bien sûr. Ce même calife, hein, c'est Abu Ja'far al-Mansur, donc le deuxième calife abbasside, mais en fait le premier grand calife abbasside, ce même calife abbasside, à la fin de son règne, vers 770, établit dans la charge de premier ministre ce qu'on nomme désormais le vizirat. C'est une charge qui n'existait pas sous les Omeyyades et qui est créée donc sous les Abbassides, une famille iranienne et une famille iranienne, là aussi de très fraîche conversion à l'islam, la famille qu'on appelle les Barmécides, une famille qu'on appelle les Barmécides, ça doit être en deuxième, voilà, la deuxième ligne de la colonne de gauche, les Barmécides, voilà, une famille qui va pendant 30 ans, plus de 30 ans, gouverner pratiquement à sa guise, au nom du califat abbasside, l'Empire. En particulier dans son rôle de contrôleur général des finances, dans le rôle de ministre des finances, hein, de premier ministre et de ministre des finances. Pendant plus de 30 ans, donc jusqu'en 803, cette dynastie de ministres est toute puissante, au point d'ailleurs que son nom a donné un verbe en arabe, quand vous voulez dire en arabe, vous avez la folie des grandeurs, vous dites « tabarameka », ça veut dire « faire comme les Barmécides ». Hein, faire comme les Barmécides, c'est-à-dire avoir la folie des grandeurs. Hein. Donc, bon, c'est un arabe un peu classique. La plupart des arabes d'aujourd'hui ne reconnaîtraient pas le verbe, si j'ose dire, qui est de toute façon visiblement pas un verbe arabe, à en juger par le nombre de ses consonnes. Donc voilà, cette dynastie de ministres gouverne avec un faste sans égal. C'est un Barmécide, Jaafar, qui apparaît dans Les Mille et Une Nuits aux côtés de Haroun Rachid, le grand calife, hein, le son vizir, l'inévitable vizir, hein, l'indispensable vizir, qui donne toujours la solution dans les situations les plus angoissantes et les plus désespérées. L'indispensable vizir, c'est Jaafar al-Barmaki, hein, c'est le vizir Barmécide. Donc cette famille a laissé une immense trace littéraire et dans la mémoire de l'islam en général, mais en 803 précisément, le calife Haroun qui accompagne Jaafar dans les contes des Mille et Une Nuits, le calife Haroun al-Rachid décide brutalement de mettre fin à voilà toute puissance des Barmécides, fait exécuter son premier ministre et emprisonner pratiquement toute la famille. De nouveau, l'Iran fait peur, hein, au califat, parce que le califat des Abbasides est en grande partie la création précisément de l'Iran. Et la décision de Haroun, l'exécution de Jaafar al-Barmaki, est lourde de conséquences, puisque presque aussitôt l'Iran, en particulier le Khorasan, se soulève, et Haroun al-Rachid va passer l'essentiel du reste de son règne, les 6 ans qui lui restent à vivre, a tenté de pacifier la province du Khorasan. Il y meurt d'ailleurs en 809. Son tombeau est à Meshed, à tous, comme d'autres. Et en fait, le testament de Haroun est caractéristique. Il a 2 fils. Un fils qu'il a eu d'une femme. Les califes à l'époque se mariaient encore. Plus tard, ils n'auront plus que des concubines, mais à l'époque, ils se mariaient encore. Et donc, un fils qu'il a eu d'une femme arabe, Quraishite comme lui, enfin mécoise, de bonne origine arabe, Zubaïda. Et ce fils, qui est l'aîné, Amin, il lui laisse l'empire, mais avec l'administration de toutes les provinces occidentales de l'empire. Mais il laisse au second de ses fils, Al-Mamoun, qu'il a eu d'une concubine persane, et qui parle persan d'ailleurs, il lui laisse la gestion de toutes les provinces orientales de l'Empire, c'est-à-dire qu'il coupe l'Empire en deux, entre les provinces arabes, en gros l'Irak et tout ce qui est à l'ouest de l'Irak, et les provinces iraniennes, c'est-à-dire la totalité du plateau iranien et le Khorasan et l'Asie centrale, qui est considérée comme une part de l'Iran. Et naturellement, bon, il fait inscrire à la Mecque son testament, tout est dit, est élaboré dans toutes les formes juridiques possibles, et naturellement le testament tient 6 mois à peu près après sa mort, puisque au bout de 6 mois, les 2 frères entrent en guerre civile, bien sûr, et c'est l'Iranien qui l'emporte, si j'ose dire. Hein, c'est le calife Al-Mamoun qui l'emporte sur son frère Al-Amin, les troupes d'Al Mamoun, venues de Khorasan, exactement comme 50 ans plus tôt, au moment du soulèvement abbasside contre les Omeyyades, les troupes du Khorasan prennent d'assaut Bagdad, la livrent d'ailleurs à un pillage épouvantable, et le calife Al-Amin, le frère d'Al Mamoun, enfin le frère arabe, si j'ose dire, est tué dans l'assaut, hein, dans des circonstances mal éclaircies. Mais indiscutablement, ça se passe en 813, cette prise de Bagdad en 813, la vraie victoire ou la vraie revanche de l'Iran. À partir de là, les Iraniens sont absolument centraux dans l'administration de l'Empire, mais pas seulement les Iraniens. Ils y font presque aussitôt entrer des peuplades situées au-delà du monde iranien, ici, qui sont les Turcs. Hein, il ne faut pas évidemment situer les Turcs ici, hein, ils n'y sont pas là. Hein, nous sommes au 9e siècle, les Turcs sont là, dans la Kirghizie, le Kazakhstan d'aujourd'hui. Hein, c'est ça les Turcs, hein, c'est ça le monde turc. Les vizirs persans, puisque désormais la fonction de Premier ministre sera à peu près systématiquement assurée par des persans dans ce monde abbasside, les vizirs persans du califat achètent à partir du 9e siècle, pour expulser les Arabes des fonctions militaires qu'ils exerçaient encore jusque-là, ils achètent des esclaves soldats, c'est-à-dire des enfants qu'on élève pour en faire des soldats. C'est ce qu'on appelle en arabe, c'est un des mots qui désigne les esclaves, mais ça désigne ces esclaves-là en particulier, c'est-à-dire des esclaves de luxe, hein, des esclaves qui sont destinés à servir le prince au plus près, à compter dans la domesticité du prince et même dans l'administration centrale de l'Empire. C'est ce qu'on appelle des mamelouks, c'est ça, un mamelouk. Hein. Un mamelouk, c'est un esclave soldat, hein, au départ. Et bon, peu importe le racialisme qui est derrière ce choix, mais c'est vers le monde turc que le regard des persans se tourne tout naturellement pour acquérir ces esclaves soldats, ces enfants qui doivent manifester à la fois une absolue fidélité née d'une piété filiale, c'est pour ça qu'on les prend enfants, hein. C'est pour les couper de leur famille et pour faire en sorte que le calife devienne leur famille. Hein, et ça marche. Hein, il n'y a pratiquement pas d'exemple d'une trahison par un esclave soldat de son maître, hein, de celui qui est plus que son maître, de celui qui devient son père, hein, avec cet achat. Mais aussi, hein, au-delà de la fidélité, ce qu'on attend évidemment de ces soldats et de ces domestiques, c'est la bravoure, c'est la vigueur militaire. Or, cette vigueur militaire, dans la vision persane et au-delà islamique du monde, elle est attribuée au peuple du nord du monde, c'est-à-dire les Turcs avant tout. Hein, ce sont les peuples supposés les plus barbares et par conséquent les plus vigoureux du monde, les meilleurs combattants qui soient. Et puis, si on n'a pas de Turcs, des Slaves, des Francs, les peuples du nord du monde en général, hein, plutôt que les peuples du sud. Donc voilà, aux Persans, en gros, l'administration civile et l'achat de ces enfants esclaves, par l'intermédiaire d'ailleurs d'une dynastie persane qui règne en Asie centrale, les Samanides, peu importe, et aux Turcs désormais les fonctions militaires. Bon, vous voyez que on ne peut pas affirmer comme les Omeyyades de Cordoue que le califat abbasside est une entité politique perse, mais tout de même, il y a du vrai, hein, un peu de vrai dans la description caricaturale que les Omeyyades faisaient du califat abbasside comme d'un pouvoir perse, en fait. Hein. Les Perses sont très présents, les Iraniens sont très présents dans cet empire. Bon, ce qui retient d'approuver totalement le jugement des Omeyyades, c'est la complexité, en fait, de la situation, parce que, une fois au pouvoir à Bagdad, les Persans, les Perses, je ne sais pas comment il faut les appeler, les élites persanes, construisent en fait une authentique culture arabe. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'une large part de la culture que nous appelons arabe, et la culture arabe classique, est en fait construite par des Persans. Et d'abord, La langue arabe, bien sûr. Hein, la langue arabe est en grande partie une création, la langue arabe, la prose hein, en particulier, la prose d'Empire, est en grande partie une création des Persans. La plupart des Persans qui servent l'administration abbasside ne nous ont laissé d'abord de traces qu'en langue arabe. Et cette langue, donc, comme le fera remarquer plusieurs siècles plus tard mon cher Ibn Khaldoun, cette langue, ils l'ont assez largement inventée, si j'ose dire. En tout cas, ils en ont écrit la grammaire. Certes, il existait déjà une langue arabe qui était riche d'une grande poésie et d'une grande diversité de dialectes de l'Arabie, mais on n'administre pas un empire avec des poèmes, comme vous savez, fondamentalement, et la prose arabe n'existe pratiquement pas en 750 à l'arrivée des Abbassides au pouvoir. Or, ils ont besoin, pour administrer l'empire, d'une langue administrative précise, technique, mais aussi ils ont besoin d'une prose de qualité qui illustre la majesté de l'Empire, hein, tout simplement, par sa tenue. Une prose châtiée qui exclut le parler de la populace, bien sûr, qui exclut les erreurs grossières du peuple. Ce qui suppose que ces erreurs aient été définies, bien entendu, comme des erreurs linguistiques, comme des fautes de grammaire. Hein, et donc que les règles de la langue et les règles de la grammaire aient été posées. Ça va de soi. Or, ce sont les Iraniens qui vont pour l'essentiel poser les règles de la grammaire arabe. Hein, tous les grands, c'est ce que remarque Ibn Khaldoun au XIVe siècle, tous les grands noms de la grammaire arabe sont des Persans. Hein, à commencer par le plus grand, c'est Sibawayhé, dont la grammaire est restée encore de nos jours. Hein, le livre dans lequel on apprend, quand on apprend la grammaire comme les Arabes, hein, on apprend la grammaire arabe. Et ce livre est écrit par un Persan. Son nom, Sibawayhé, en arabe, ne laisse aucun doute, c'est un nom persan, hein, vers l'an 800, à peu près, hein, à l'époque abbasside. Et puis, c'est un Iranien, Ibn al-Mukaffara, qui écrit, vers 755, le premier chef-d'œuvre de la prose arabe, qui est un recueil de contes, mais un recueil très politique hein, de contes, qui s'appelle Kalila et Dimna, c'est l'histoire de deux chacals. C'est pas très engageant d'emblée, oui. C'est l'histoire de deux chacals très ambitieux qui s'efforcent de devenir vizir à la place du vizir et non pas calife à la place du calife parce que le calife est arabe. On ne peut pas, un persan ne peut pas devenir calife. Hein. Mais en revanche, il peut devenir vizir. Alors le calife, qui est un lion, bien sûr, l'arabe, il est stupide, bien sûr, comme le calife et l'arabe se doit d'être dans un conte persan, et donc il a pour ami principal un bœuf, enfin ou un taureau plutôt, hein, plutôt un taureau, enfin puisqu'il a des cornes très très, très puissantes, et le but de ces deux chacals qui travaillent de concert, c'est de discréditer le taureau aux yeux du roi lion. Ils y arrivent, d'ailleurs, le taureau et le lion s'entretuent littéralement. Seule la lionne, la mère du roi lion, comprend le jeu des chacals, les dénonce, et finalement, pour l'un d'entre eux, en tout cas, Dimna, la chose se termine mal. Donc, c'est un... Bon, il est significatif que cette sorte de recueil de fables animalières soit à la fois une traduction, parce qu'en fait c'est une traduction du Pehlevi, c'est-à-dire de la vieille langue de l'Iran, et au-delà c'est une traduction du sanskrit, hein, c'est un recueil de contes qui vient de l'Inde, mais c'est aussi un livre politique. Ce qu'en a fait Ibn al-Mukaffara, beaucoup plus nettement que le Panchatantra qui a servi de modèle, c'est un livre de politique. Donc voilà, c'est donc en grande partie les Iraniens qui ont créé à la fois la prose et la grammaire, et lorsque bon, les Arabes qui, dans les débuts de l'islam, n'avaient pas besoin de grammaire pour parler leur langue, en général on n'a pas besoin de grammaire pour parler sa propre langue, lorsqu'ils ont perdu peu à peu le contact avec l'Arabie et avec la langue arabe, ils se sont attachés à cette grammaire que des Persans avaient élaborée, pour, non pas parler de moins en moins, mais pour écrire comme une forme de latin, hein, cet arabe dont ils avaient perdu la pratique naturelle, hein, et donc dont ils avaient besoin de connaître les règles pour pouvoir l'écrire, comme nous avons perdu peu à peu, enfin nos ancêtres ont perdu peu à peu la pratique du latin au profit du dialecte roman que nous parlons et que nous appelons le français, et nous avions, parce que plus personne n'étudie aujourd'hui le latin, mais enfin nous avions besoin évidemment de règles pour entrer dans cette langue qui est après tout, le latin j'entends, presque la nôtre, hein. Mais nous avions besoin de cette langue. Les Arabes ne sont pas dans une situation très différente vis-à-vis de l'arabe qu'on appelle entre guillemets classique, et donc ils ont besoin de la grammaire que les Persans ont élaborée. Mais alors, me direz-vous, et pour finir, si ces Persans écrivaient l'arabe au 8e, 9e, 10e siècle, s'il ne reste d'eux que des traces en langue arabe, pourquoi les nomme-t-on Persans ? C'est une question auquel une de mes collègues s'est trouvée confrontée dans un exposé qu'elle faisait à Tunis, autant que je me souvienne. J'étais présent, donc oui, ça devait être ça. Et elle parlait du persan Avicenne. Et un des interlocuteurs lui a dit, Avicenne, c'est le grand... Vous savez, bon, Ibn Sina, qui est né effectivement en Iran et qui est mort en Iran, hein, il a vécu toute sa vie dans le territoire, dans les territoires persanophones, hein, de l'Asie centrale, de l'Iran, etc. Et donc, un étudiant tunisien, sans doute mal intentionné déjà, lui dit, mais madame, je ne comprends pas, l'œuvre d'Avicenne n'est pas en persan. Et c'est vrai, hein, Avicenne meurt en 1038, si je ne me trompe pas. L'œuvre d'Avicenne est presque entièrement en arabe. La quasi-totalité, je pense que c'est même la totalité de l'œuvre d'Avicenne. Biruni, qui vit un peu plus longtemps et un peu plus tard, a écrit un peu en persan, mais pour l'essentiel en arabe. Donc ces hommes écrivent en arabe. Pourquoi dites-vous d'Avicenne qu'il est persan et il est arabe ? Hein, dit-on de Ptolémée, de Claude de Ptolémée, l'astronome égyptien, enfin d'Alexandrie, précisément qu'il est égyptien. Non, on dit que c'est un astronome grec. Hein, son œuvre est en grec. Hein, que sait-on de l'origine ethnique de la plupart des auteurs alexandrins ou syriens qui écrivent en grec après les conquêtes d'Alexandre le Grand dans les royaumes hellénistiques? À peu près rien, mais on les considère comme grecs, puisque la langue qu'ils utilisent, c'est le grec. Et c'est vrai, il y a dans cette objection quelque chose de vrai, mais seulement quelque chose, en fait, elle est assez pernicieuse. Alors pourquoi nomme-t-on ces gens persans, et pourquoi a-t-on toujours le droit de dire que Avicenne est un savant persan, mais parce qu'ils le disent eux-mêmes, hein, c'est-à-dire qu'ils parlent en arabe, ils écrivent en arabe. Peu importe ce qu'ils parlent, ils écrivent en arabe, mais ils se donnent pour persans, et on les donne pour persans. Mais pourquoi les donne-t-on pour persans ? Pourquoi les appelle-t-on persans alors qu'ils écrivent en arabe ? Mais parce qu'ils sont dans leur rôle de persans. Parce qu'il y a dans l'Empire abbasside un rôle pour les persans. Et au fil d'ailleurs de ce que je vous disais, je vous l'ai dit, hein, le rôle des persans, c'est le rôle des administrateurs, c'est le rôle des secrétaires d'empire, c'est le rôle des intellectuels de l'empire. Et on le dit aussi parce que ce qui est à peine moins significatif, ils ont gardé des noms persans. Hein, ça, c'est assez caractéristique. Si je prends le nom d'un des premiers, Sibawayhe, hein, dont je vous parlais, c'est un nom que, en arabe, on reconnaît immédiatement pour un nom persan. Hein, c'est, si je prends le nom d'un des géographes du 9e siècle, Ibn Khordadbé, c'est un nom que on reconnaîtra immédiatement en arabe pour un nom persan. Hein, et donc, ils gardent leur nom. Hein, c'est intéressant. De la même façon qu'ils gardent leurs fonctions, les fonctions qui leur sont en quelque sorte réservées dans l'Empire et qui sont encore une fois les fonctions d'administrateur, les fonctions de secrétaire, les fonctions d'intellectuel. Hein, c'est pourquoi les noms persans sont aussi nombreux effectivement parmi les grands noms de la littérature de l'islam classique. Hein. C'est l'ensemble de ces traits pour les contemporains, comme d'ailleurs pour les orientalistes d'hier et d'aujourd'hui, qui définit ce qu'on peut appeler un rôle persan dans l'empire abbasside, tout comme il y a un rôle turc, qui est le rôle militaire, hein, fondamentalement. Hein. Quand vous portez l'armée, quand vous portez l'épée, il vous faut vous appeler Touloun ou Aksonkur, c'est-à-dire le faucon blanc en turc, etc. Bon, il vous faut porter un nom turc. Même si vous êtes né Jacques ou Paul, hein, dans l'Égypte mamelouk du XVe siècle, un voyageur bourguignon, il y en a, espion sans doute, la Broquière, rencontre des mamelouks qui sont d'origine française, hein, et qui s'appellent, bien entendu, Aksonkur, etc., enfin, qui portent des noms turcs parce que ils exercent les fonctions militaires qui sont dévolues aux Turcs, a priori, et ce sont donc des Turcs de profession, si j'ose dire, hein, des Turcs de ex-officio, hein, du fait même de leur profession. Eh bien, les persans sont des persans de profession lorsqu'ils exercent les fonctions de vizir ou lorsqu'ils exercent les fonctions de secrétaire. Ces noms turcs, persans, arabes sont des rôles complémentaires dans l'Empire, des rôles souvent conflictuels dans l'appareil de l'Empire, dans la gestion de l'État. Fondamentalement, ces rôles sont peu nombreux. Il y en a trois, d'ailleurs. Hein. C'est justement arabe, turc et persan, hein, dans l'Empire abbasside. Et ces rôles sont attachés à des stéréotypes auquel il convient de se conformer. Les persans, par exemple, sont intelligents, bien entendu, ils sont merveilleusement habiles dans la gestion politique. La politique, c'est-à-dire la gestion des hommes, est leur domaine par excellence, le domaine de la CISA, comme on dit. Le vizir Jaafar, dans Les Mille et Une Nuits, c'est le persan par excellence, hein, bien entendu. Mais évidemment, ils sont fourbes et avares, hein, ça va de soi. Les Turcs sont brutaux, ils sont fidèles. En revanche, et les Arabes sont généreux, mais ils sont peu réfléchis. C'est le calife arabe Haroun al-Rachid, dans les Mille et Une Nuits, c'est le rôle de l'Arabe. Quand tu dis que Jaafar, qui lui réfléchit, mais qui est moins audacieux que le calife, on le sent plus prudent, hein, moins généreux de son sang, de son temps et de son argent que le calife. Voilà, c'est ce jeu de rôle, si j'ose dire, abbasside, qui devait finalement l'emporter dans l'histoire de l'Iran. Aux Turcs, le pouvoir, le sabre, et aux Persans, le gouvernement civil, même en Iran. Hein. À partir de la victoire des Turcs sur l'ensemble du Proche-Orient au XIe siècle, de dynastie turque, toutes les dynasties qui règnent sur l'Iran, même les plus emblématiques, comme la dynastie des Safavides, qui va convertir, enfin qui choisit pour l'Iran le chiisme comme religion d'État, toutes ces dynasties sont des dynasties turques, en fait. Hein. Bien sûr, il n'y a pas d'exception jusqu'au Pahlavi, je veux dire, du XXe siècle, hein, la dynastie des Shahs. En revanche, revient systématiquement aux Persans, et de plus en plus, au fur et à mesure que passent les siècles, les fonctions de la civilisation, la maîtrise des arts, l'exclusivité de la poésie, qu'ils reprennent même aux Arabes, hein. Ils arrivent même à faire de la poésie persane qui rivalise avec ce qui était le rôle des Arabes, hein, c'est-à-dire précisément la poésie. Et alors que, au fil des siècles, l'arabe recule, par exemple en Méditerranée, en Sicile, en Espagne, les Turcs qui conquièrent des terres immenses, à commencer par l'Inde, hein, que vous voyez là, hein, assurent aussi la victoire intellectuelle et culturelle du persan. Parce que ce sont ces dynasties turques, pas seulement celles de l'Iran, mais d'une manière générale les dynasties turques de l'islam, hein, qui vont assurer la victoire intellectuelle du persan, non seulement en Iran, mais aussi en Turquie, dans l'Empire ottoman, hein, le persan est la langue de cour de l'Empire ottoman jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'à ce que le turc devienne une langue sérieuse, mais jusque-là, c'est pas une langue sérieuse, c'est une langue de brute. Hein, Soliman le Magnifique écrit des poèmes en persan. Il écrit à sa femme, puisqu'il a eu la faiblesse de se marier à une époque où les sultans ottomans ne se marient plus et n'ont plus que des concubines, il lui écrit en turc. Mais en revanche, le discours officiel, le discours de parade officiel, encore sous le règne de Soliman le Magnifique au XVIe siècle, est en persan. Et lorsque, très curieusement, le père de Soliman Selim affronte les maîtres de l'Iran, qui sont des séfévides d'origine turque, il reçoit un message de l'ennemi séfévide en turc. L'ennemi séfévide sait bien que Selim est capable de lire le turc tout de même. Et il répond avec indignation qu'on ne lui écrit pas à lui en turc, ce qui est une manière de le déprécier. On doit lui écrire en persan, au moins, sinon en arabe, si on le sait. Donc voilà, entre 12e et 18e siècle, le persan est la langue la plus répandue de l'islam, beaucoup plus que l'arabe, entre la Turquie et l'Inde, et jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à l'occupation anglaise, enfin jusqu'au début de la pénétration, puis de la victoire, la conquête anglaise de l'Inde, le persan est la langue de l'empire islamique des Indes, de l'empire moghol. Et les premiers fonctionnaires britanniques de la Compagnie des Indes qui sont dépêchés pour administrer les premières provinces conquises, le Bengale, le Bihar, dans le nord-est de l'Inde, sont choisis parce qu'ils parlent le persan. C'est le cas de plusieurs d'entre eux, dont sans doute le plus célèbre, Jones, qui est l'homme des conférences de Calcutta, qui met en valeur l'unité des langues indo-européennes, enfin la communauté linguistique et grammaticale des langues indo-européennes. Voilà, donc pour ce qui concerne cette histoire de l'Iran, je ne veux pas la prolonger davantage parce que je crois que j'ai pris beaucoup de temps. Il y a peut-être la place à quelques questions pour finir.
Oui, effectivement, on va se donner le temps. Des questions et donc des réactions que nous avons, si j'ai bien compris en tout cas, entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et le 10e siècle après, sinon même peut-être plus, ce territoire en tout cas a toujours été le territoire, un territoire impérial.
Oui,
donc,
tout à fait. Oui, tout à fait.
Est-ce que... n'est-ce pas plutôt un contresens donc de faire une lecture contemporaine de cette histoire ancienne, ou est-ce qu'on peut se la permettre?
Je ne sais pas. J'allais répondre que dans l'histoire contemporaine, l'Iran est une nation. Mais j'en suis plus si sûr avec les événements, mais monsieur l'ambassadeur pourrait nous en parler mieux que moi, avec les événements que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que poussé, acculé par le djihadisme sunnite que vous connaissez, l'Iran est en train de rassembler autour de lui, parce que il s'efforce de se blottir au sein du grand frère iranien, la totalité des communautés chiites du monde, en fait, y compris des gens qui n'étaient pas considérés comme chiites il y a simplement 30 ou 40 ans, mais qui sont repoussés par la persécution sunnite dans les bras de l'Iran, comme par exemple les Alévis de Turquie, les Alaouites de Syrie, c'est-à-dire la petite communauté du président Assad, enfin une petite communauté de 2 millions à peu près d'Alaouites en Syrie, mais les Alévis en Turquie sont beaucoup plus nombreux, ils sont une quinzaine de millions, ou bien les chiites pakistanais, ou les chiites afghans sont 3 ou 4 millions, les chiites pakistanais une trentaine de millions, 30-35 millions. Et d'une manière générale, l'Iran est en train de redevenir le centre d'un empire. Alors que il se définissait, je crois, sans trop de difficultés dans l'histoire contemporaine, comme une nation. Et donc, j'allais vous répondre, oui, on a tort de faire une lecture contemporaine, c'est-à-dire une lecture nationale d'une histoire qui fondamentalement est une histoire impériale. Voilà. Mais en fait, elle redevient impériale. Elle redevient impériale parce que l'Iran, c'est plus que l'Iran aujourd'hui. Tout le monde le sait. Je veux dire, si vous lisez un peu les journaux, les Israéliens s'en inquiètent beaucoup, les Américains s'en sont inquiétés. De fait, l'Iran est en train de... mais à son corps défendant, je crois, en large part, parce qu'il essaye de défendre sa peau, qui est aujourd'hui menacée. Hein. Il est en train de devenir le grand protecteur des chiites, un peu partout dans le monde musulman où il y a des chiites, donc depuis l'Inde jusqu'à la Turquie.
Monsieur voilà. L'ambassadeur.
Non, merci beaucoup. Hein. C'était vraiment une conférence qui m'a fait... On a fait un voyage sur un tapis volant.
Voilà, c'est du but. Merci.
Mais moi-même, j'ai une question qui va d'ailleurs s'enchaîner parfaitement sur ce qui vient d'être dit. C'est la question précisément dont on parle tellement aujourd'hui de l'opposition chiite-sunnite, enfin, oui, qui est oui. L'obsession en ce moment de toute oui. La région.
Oui.
Alors, quand on lit un auteur comme Gobineau, par exemple, lui considère qu'il y a une continuité du chiisme, que le chiisme est en fait une façon déguisée de prolonger le zoroastrisme, la religion des mages qui s'est cachée un petit peu, et puis comme dans tant d'endroits au Moyen-Orient, finalement, sous la religion officielle se cachent encore de vieilles croyances, et donc le chiisme serait un mélange d'islam et de vieilles croyances, notamment zoroastriennes. Mais en même temps, ce que vous décrivez et que l'on sait, c'est que l'Iran était sunnite la conquête
oui.
Jusqu'au moment où les Safavides sont arrivés, 15e, 16e siècle, et où ils ont imposé le chiisme, c'était vrai, d'ailleurs par des massacres, enfin ils ont massacré des dizaines de milliers de gens pour les convertir de force au chiisme. Donc il y a eu une rupture, mais y a-t-il eu quelque chose de souterrain pendant toute cette période ? Est-ce que ces croyances anciennes ont cheminé de façon souterraine pour ressurgir à ce moment-là, pour ressurgir au 15e, 16e siècle ? Y a-t-il eu rupture complète ? Voilà, Gobineau disait par exemple que si le chiisme a un clergé, c'est qu'en fait c'est le vieux clergé zoroastrien qui, au moment de l'arrivée des Arabes, s'est converti à l'islam à condition de conserver ses privilèges et de conserver ses hiérarchies. Mais est-ce que ça, c'est une construction, est-ce que c'est une réalité, cette construction, ou pas du tout ? Voilà les questions que je me pose et que je vous pose.
Oui, c'est tout à fait décisif. Alors, évidemment, dans la vision de Gobineau, cette idée que le chiisme n'est que la transformation du zoroastrisme, en fait, et de la religion des mages, va avec l'idée de la permanence d'une nation iranienne, bien sûr, hein, à travers toutes les conquêtes. Et c'est évidemment... de l'ordre de l'évidence pour un homme du XIXe siècle pour qui les nations ou les peuples sont les moteurs décisifs de l'histoire et passent à travers les religions comme ils passent à travers tous les obstacles en fait, hein, où les peuples sont enracinés dans un passé sans âge. Hein. Ce n'est pas seulement le cas pour la plupart des auteurs du XIXe siècle des Iraniens, mais tout autant, on pourrait en retrouver tout autant dans l'historiographie espagnole, hein, les Espagnols existent depuis toujours, ou dans l'historiographie française. Nous leur devons les Gaulois, enfin, qui sont établis comme nos ancêtres. Enfin, c'est assez compliqué, en fait. Hein. Non, c'est assez compliqué au XIXe siècle. Comment les Gaulois sont devenus nos ancêtres, mais c'est intéressant. C'est très intéressant. En tout cas, ce que je veux vous répondre, c'est que vous êtes, enfin, Gobineau, plutôt, serait d'accord avec le grand mufti d'Arabie Saoudite, qui, il y a très peu de temps, comme vous le savez, les Iraniens ont été exclus du pèlerinage de la Mecque parce qu'ils ont protesté vigoureusement contre, l'accident, la bousculade qui s'est produite l'an dernier à la Mecque et dont ils sont intimement persuadés qu'elle a été provoquée par les autorités saoudiennes, puisque sur les 2500 morts à peu près de cette bousculade, enfin, une bousculade de quelque ampleur, près de 500 étaient iraniens, hein, c'est-à-dire que la délégation iranienne a été très largement affectée, et même a péri, semble-t-il, dans la bousculade, l'ancien ambassadeur iranien à Beyrouth, qui était le mentor du Hezbollah libanais. Les Iraniens sont assez persuadés que c'est lui que les Saoudiens voulaient, dont les Saoudiens voulaient avoir la peau, et ils n'auraient pas hésité à provoquer une bousculade dans laquelle quelques centaines de pèlerins qui n'avaient pas grand-chose à voir avec l'individu en question, qui était assez redoutable en effet, quelques centaines de pèlerins y ont péri. Donc crise diplomatique, interdiction du pèlerinage des Iraniens sur le territoire saoudien, et quand on a demandé au grand mufti d'Arabie saoudite comment on pouvait interdire à des musulmans tout de même l'accès à la Mecque, c'est gênant, il a répondu, ne vous en faites pas, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des mages, hein, ce sont des mages, ce sont des zoroastriens, ils n'ont jamais été. Ils n'ont jamais été musulmans. Ils ont fait semblant de se convertir, hein, mais ils n'ont jamais été musulmans. Et je crois que c'est la première fois qu'un dignitaire de cette importance, parce que le mufti d'Arabie saoudite fait figure de chef ou de référence de l'islam dans le royaume, exprime avec cette brutalité ce que beaucoup pensent sans doute, hein, dans le monde arabe intimement. C'est-à-dire que les Persans sont les Persans et qu'ils on leur a affecté, comme j'essayais de vous le dire, un rôle depuis si longtemps et on les a écartés depuis si longtemps de la façon arabe de concevoir l'islam que on les tient pour des étrangers. Mais c'est la première fois qu'on les tient aussi radicalement pour des non-musulmans. Il faut dire que même si le chiisme est arrivé très tard, dans le monde d'aujourd'hui, persan pratiquement veut dire chiite. Hein. Vous n'êtes pas persan si vous n'êtes pas chiite. Je veux dire que si vous êtes persanophone, si votre langue est le persan, mais que vous êtes sunnite, vous êtes un Tadjik dans le monde de l'Asie centrale, où il y a beaucoup de Tadjiks. Hein, le Tadjikistan, bien entendu, la République du Tadjikistan en est un exemple, mais il y en a d'autres. Hein, les populations des vieilles villes de l'Ouzbékistan est une nation turque, enfin la langue de l'Ouzbék est une langue turque, mais les populations de Samarkand, de Boukhara, les vieilles villes de l'Ouzbékistan sont persanophones, et on les appelle Tadjiks. Sur place, dans le nord de l'Afghanistan, Kaboul est une ville tadjik, c'est-à-dire une ville où on parle persan, en fait, c'est ce que ça veut dire. Hein. Mais ce sont des persans sunnites, mais on ne les appellera pas persans, parce que les persans sont des chiites. Et oui, et oui. C'est pas si compliqué, je veux dire... la religion... fondent tout simplement... les Flamands et les Hollandais parlent la même langue. Ce qui les a séparés fondamentalement dans l'histoire... la même langue avec quelques nuances, mais c'est la même chose entre les Persans et les Afghans. Enfin, je veux dire. Et ce qui les a séparés dans l'histoire, c'est la religion. C'est que les uns étaient catholiques et les autres... il y a des catholiques parmi les Hollandais, comme vous savez, presque autant que de protestants, mais c'est le protestantisme qui a défini politiquement les Provinces-Unies à partir du début du XVIIe siècle et de leur indépendance avec l'Espagne. C'est le même cas, en fait. Hein.
Eh bien, écoutez, un très, très grand merci, M. Martin Legros.